présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enfin, le continent invisible. On voit les berges, les gens du bateau sont émus. On a construit un immense port pour recevoir le bateau.
Oh!
renards sortent du bateau. Le service d'ordre est préparé pour l'avance pour les recevoir. On les dirige pour qu'ils soient amenés dans leur lieu où ils doivent habiter. On les mène en train à leur destination, des centaines de trains dans une gare immense. Fait mettre les gens par deux en rang. On leur dit où se mettre et quel train ils doivent prendre. Galien a le train spécial présidentiel avec les gens de son groupe, sa famille, Lucien et Guillaume. Les trains sont gros, clairs, tout en vitre, à deux niveaux. Les gens, une fois dans leur train, partent à leur destination. Le train ne fait qu'une destination. Chaque ville a une gare. Une fois arrivé à destination, on montre leur maison aux gens, leur lieu de travail. Ils ont un plan des lieux. On laisse 2 semaines aux gens pour qu'ils puissent se mettre en place. Galien a à côté de son siège une immense maison toute blanche avec parc et piscine. Il y vit avec Guillaume. Philippe, un peu plus loin, a une maison seule à côté de celle de ses parents. Une magnifique petite villa toute blanche. Tout se met en place de suite. Se met en place très vite. Tout d'abord, la police de surveillance ordinateur vidéo qui peut suivre où est chaque habitant du continent. Puis la bourse centrale ordinateur où on a déposé au centre l'ordinateur pontois. Pour le centre d'achat, un ordinateur où l'on peut tout acheter. De toute façon, il n'y a pas de magasin. Tous les achats se font sur ordinateur. Dans chaque logement, on a branché un ordinateur relié au centre d'achat, Internet, etc. De suite, chaque ville a un hôpital qui est relié au centre de santé siège Riquin et a été ouvert dès l'arrivée des gens. Les télévisions, radio, internet, téléphone se sont aussi mis en marche. Tout le monde est relié par ordinateur au centre de surveillance, comme pour le centre d'achat, ce qui fait que l'on saura qui achète quoi, qui écoute qui, regarde quoi. Et où sont les gens ? L'eau potable a été donnée au groupe Pontoise, comme la télévision, radio et les produits diététiques. Les cours, écoles, ordinateurs sont ouverts, du préparatoire à l'université. Les gens se connectent et choisissent le cours qu'ils veulent avoir. D'abord, ils doivent choisir l'examen à passer et voir quelle matière ils doivent avoir. Ils doivent apprendre, étudier. Pour aider la surveillance 24 heures sur 24, des gens, on a créé des mutants et des chimères fidèles au poste. Dès que les gens sont arrivés, tout s'est mis en route en un temps record. D'abord les transports conduits par des chimères et les centrales atomiques. Puis tout le reste. En 2 jours, grâce au personnel de Genetou Pontoise, aidé par les chimères, tout marche. C'est comme si le continent avait toujours existé. Les gens très vite s'habituent à leur nouvelle vie. Surtout, étant donné que l'on connaissait déjà sur ordinateur leur goût, on les a vite mis dans leurs meubles et ambiance. Très vite, ils s'habituent à leur nouvelle vie, de travail, de loisirs, de vitoyens, se font des amis. Comme le décor est féerique, de cartes postales, la nature et l'architecture, cela rend les gens heureux, en forme. D'ailleurs, les activités sportives marchent très bien et les gens voyagent beaucoup pour découvrir le nouveau continent. Les gens ont foi en l'avenir et croient qu'ils vont vivre éternellement comme ça. Galien organise une petite fête pour remercier ses collaborateurs d'avoir si bien travaillé. Il demande à Ricain et l'ADN de Dieu est en sûreté dans une vitrine. La maison Disney dit que avait déjà fait des villages et villes idylliques en Amérique et que ça avait très bien marché.
Gaïa est dans sa chambre. Il est réveillé par des coups à la porte de sa chambre. Il se soulève et veut éclairer la lampe de chevet. Il n'y arrive pas. Il crie « Entrez !» Entre un homme. « Qui êtes-vous ? » ?»«
C'est moi, Danfeur. »
« Que se passe-t-il ? » ?»«
Une chose très grave. Plus rien ne marche. »
« Comment ça ? » ?»«
Plus rien. Plus d'électricité. Rien du tout.
Que se passe-t-il ? » ?»«
Nous ne savons pas. » »«
Bien, je me lève. »
Gaïa se lève.
Met sa robe de chambre. Il demande, il n'y a pas de lumière ?
Non, et même les lampes de poche, les batteries ne marchent pas.
C'est étrange, allons au centre. Et à tâtons, ils sortent de la chambre. Et de la maison.
Dehors, il fait sombre. Des groupes de gens sont dans la rue en robe de chambre. L'enfant lui dit,
les gens se demandent ce qui se passe. Nous sommes obligés, c'est d'aller à pied. Même les voitures ne marchent pas.
Ils vont à pied au siège. Une fois dans le siège, il monte les étages à pied. Dans le noir.
Ils entrent dans le bureau de Gaïa, où se trouvent déjà Riquin, Danfort, Lucien et tous les responsables. On a mis des bougies qu'on avait amenées pour les fêtes de fin d'année. Gaïa va s'asseoir à son bureau.
Alors, que se passe-t-il ?
Riquin lui dit, aucune énergie électrique ne marche. Elle est comme paralysée et en plus les transistors fondent.
Gaïa lui dit, c'est une surchauffe.
Non, c'est autre chose. C'est comme s'ils avaient pris une maladie, un virus.
Tout le continent est comme ça ?
Oui, et même le monde. Plus rien ne marche. Ni électricité, ni ondes, rien.
Que faire ?
Chercher et guérir. Mais en attendant, nous sommes tous paralysés.
Quelqu'un lui dit.
Eh bien, cherchez, puisqu'il n'y a rien à faire.
La vie idyllique se transforme en cauchemar. Comme la terre n'est plus chauffée, le climat se refroidit et ne peut plus se chauffer. Les arbres, les cultures meurent, les animaux aussi. Le froid et la glace envahissent le continent. Les gens se servent de neige pour boire et se nourrissent de ce qu'ils peuvent, mais cru. La terre est gelée, on ne peut plus rien faire pousser, plus de communication pour demander de l'aide. Le groupe fait des distributions de quelques conserves qui restent. c'est les restrictions. Du monde idyllique, il ne reste plus rien que des ruines sous la neige, tout est paralysé. Le reste de la Terre est guère mieux loti, mais ils ne le savent pas. Et suivant les climats, c'est plus supportable, comme en Europe ou dans les continents classiques, car il y a encore de l'eau de source. Les gens morts de faim, de froid. Galien est effondré. Guillaume a de la fièvre et est au lit. Galien va le voir avec Riquin pour l'examiner. Et Riquin dit à Galien, son cerveau est touché par la maladie. Je crains quelque chose. Galien lui demande, est-ce que c'est grave? Oui, parce qu'il est fragile à cause de son suicide. Il était mort, vous vous rappelez? Et Galien va voir souvent Guillaume qui délire. Riquin ne peut rien faire, il faut attendre. Galien pleure Guillaume. Philippe dit à Galien, dès que ça ira mieux, je quitte ce lieu. Galien s'occupe de ses parents et fait de son mieux pour les réconforter. Madame de Hautebord fait des distributions de conserves. Elle et sa famille ont le moral. Riquin fait ses recherches pour voir ce qui a fait cette catastrophe. Il étudie l'air. Les transistors continuent à ne pas marcher. Le temps passe, Guillaume maigrit et change. Les gens, à l'abandon, se mettent à divaguer. Parce qu'il n'y a pas de solution au problème, ils essaient d'en trouver une à leur façon. Certains pensent que c'est parce qu'on a défié la nature, d'autres parce que Dieu a le mauvais œil. Des gens désœuvrés divaguent sur ce sujet. Un matin, Riquin court chez Galien. Galien qui est dans sa chambre au lit, les domestiques sont absents.
Frappe à la porte de la chambre et entre. Galien est encore couché. Riquin va vers lui.
Et lui dit, j'ai trouvé celui qui détruit nos transistors et empêche les circuits électriques de marcher. C'est une batterie d'un mauvais genre. Elle doit venir de l'atmosphère. C'est ça le prix. Il ne reste plus qu'à trouver un virus pour la tuer, l'éliminer définitivement. Galien est si heureux qu'il se jette au cou de Riquin. Vous êtes un génie.
Il vous faut combien de temps pour trouver ?
Une semaine à peu près. Je vais lui mettre un virus sensible à l'électricité. Comme cela, elle ne pourra plus la déconnecter, car l'électricité la tuera. Et pour l'empêcher de manger les transistors, je vais le lui rendre indigeste. Je vais lui mettre tout ça dans son ADN.
Galien lui dit, faites-vite mon ami et trouvez vite le produit chimique. Galien va vite le dire à ses parents et Philippe. Il ne trouve pas Guillaume. Il leur dit que dans une semaine, tout va remarcher comme avant. Ouf! Malheureusement, sans transport, sans ondes, comment informer les gens rapidement que le cauchemar est fini? Pendant que Riquin est dans son laboratoire à chercher la formule, des gens conduits par des émeutiers sortent dans les rues. Ils sont mal habillés, sales, maigres. Ils en ont assez. Celui qui les conduit est un grand homme maigre, à cheveux et barbe noire. Il a un visage osseux et terrible. On dirait le diable. Les gens lancent, ses yeux lancent des éclairs. Mais il ressemble à Guillaume, malgré sa maigreur et sa saleté. Il est habillé d'un large manteau noir. Il est face à la foule d'hommes, de femmes. Ils sont peut-être 1000, 1500. Et leur cri, le mal, notre vial mal vient d'ici. Il faut détruire le mauvais œil. La foule crie, oui, oui. Un homme gros et petit demande, où est-il? Je sais, parce que j'ai travaillé près de lui. Allez, allons le détruire! Et la foule le suit. Ils vont vers le centre de recherche. Malheureusement, il n'y a pas de garde et les mutants sont morts de froid. Ils se ruent dans le centre. Jean enfonce ses portes et entre. Ils cassent tout sur leur passage, suivent l'homme. Galien entend du bruit de son bureau. Mon Dieu, une émeute! Et il se rue dehors. Et une fois dehors, il se rue vers les émeutiers et entre dans le centre. Il les pousse, les dépasse, leur crie « Arrêtez, arrêtez! Tout va aller bien maintenant !» Personne ne l'écoute. Il est poussé par la foule qui monte les étages et suivent l'homme. Tout à coup, la foule s'est arrêtée. Ils sont dans la pièce de l'ADN. L'homme en noir prend une chaise et brise la vitrine. Galien, horrifié, reconnaît Guillaume. Il lui crie « Non !» L'homme s'empare de la fiole où se trouve l'ADN de Dieu. « Voilà celui qui nous apporte le malheur. » Il lève la fiole. Galien crie « Non ! On a trouvé !» Dans une semaine, tout va rentrer dans l'ordre. Guillaume, pourquoi tu fais ça? Guillaume lui jette au visage la fiole. Galien tombe, inanimé. La foule panique, se retourne et marche sur le corps. L'homme, en passant, ramasse la fiole qui n'a pas été brisée. Une fois sorti du centre, avec la fiole, il va rentrer dans la maison de Galien. Une bougie et des allumettes et retourne vers le centre où se trouve la foule. Il leur crie : nous allons brûler, mettre sur un bûcher le mauvais œil. Aidez-moi, amenez du bois. Les gens courent dans tous les sens et lui amènent des meubles en bois qui mettent en temps. La direction d'Amfort et les autres ne veulent rien faire. Ils ont peur de cette foule en délire et se disent que quand tu seras remis en marche, tout reviendra dans l'ordre. L'enfort, dit Harikin, ils sont des bêtes sauvages. Les hommes sont des bêtes. Il suffit de peu de choses pour les rendre sauvages. Une fois que le feu est suffisamment grand, l'homme allume la bougie et la jette dans le feu. Il attend que le brasier soit suffisamment important et jette la fiole. Énorme explosion. nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Imami, production mise en scène Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Imami, 137 heures d'émission. Juste pour Imami, pas pour Violence et Crépuscule. Page de préparation, 500. Page écrite du scénario, 3100. Et des grosses pages, hein, des grandes pages. Temps de préparation, sans l'écriture, 400 heures. Temps d'enregistrement, 600 heures. Kilomètres de bande magnétique, 11 200 mètres. Enregistré, CVRP. Début d'écriture, de l'écriture du scénario, 8 juillet 1998. Fin d'écriture du scénario, 18 novembre 1998. Date d'enregistrement, premier jour, 1er janvier 1999. Fin d'enregistrement, le 13 mars 1999 à 11h30. En réalité, l'histoire se suit de cette façon-là. Vous avez en premier le lac de Montrion, en deuxième l'au-delà du commun, en troisième les illusionnistes, en quatrième qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis que vous avez déjà écouté mais qui ne passera plus jamais à la radio pour raisons politiquement correctes. Ensuite, il y a le quatrième bis, c'est cri et fureur. En cinquième, film intérieur. En sixième, violence et crépuscule. En septième, Imamis. La semaine prochaine, vous aurez la suite d'Imamis, c'est-à-dire l'élu. Mais en attendant, je vais vous passer une émission, une petite histoire pour finir la semaine. Comme ça, nous commencerons la semaine avec l'élu dès lundi prochain. Ah, mais avant, je vais vous énumérer tous les dossiers, livres, etc. que j'ai, dont je me suis servi pour faire l'émission Imami. La série Imami, l'histoire est finie et je vais vous présenter tous les livres et les articles qui m'ont servi à faire cette série d'émissions. Parce que bien entendu c'est une série d'émissions de fiction, mais je me suis basé sur des choses réelles. Alors voilà, par exemple j'ai lu Le siècle biotech, Le commerce des gènes dans le meilleur des mondes, de Jérémy Ricfin. Alors, voilà ce qu'ils disent. Le 21e siècle sera celui de la génétique et des biotechnologies, produit de la convergence des sciences de la vie en un unique et puissant complexe économique et technologique. Le clonage de la brebis Dolly, ou le débat sur le maïs transgénétique, ne sont que la partie émergée d'un iceberg d'innovation qui semble relever de la science-fiction et constitue en fait un véritable processus de réinvention de la nature. Le siècle des biotechnologies se présente comme une ère d'abondance et de progrès inouï. Production industrielle de végétaux et d'animaux génétiquement modifiés pour remédier aux aléas de la production agricole traditionnelle. Médicaments miracles et thérapies génétiques au service de l'élimination de la souffrance, de la prolongation de la vie humaine, etc. Mais tout cela à quel prix ? La création d'animaux transgénétiques ou clonés signifie-t-elle la fin de la nature et l'événement d'un monde entièrement bio-industriel ? La propagation massive dans l'environnement de milliers de formes de vie produites en laboratoire risque-t-elle d'engendrer une pollution génétique catastrophique ? Faut-il craindre la mainmise et une poignée d'entreprises transnationales sur le patrimoine génétique de notre planète. Les individus ne risquent-ils pas d'être de plus en plus catalogués en vertu de leur génotype? J'ai lu aussi un autre livre qui parle tout à fait d'autre chose, Freud, biologiste de l'esprit, de Frank Sullivan. J'ai lu Bill Gates, La route du futur. Alors, il est résumé. Si vous voulez apprendre de quelle façon, dans ce 21e siècle si proche, vous dialoguerons avec les machines qui pensent. Si vous voulez comprendre comment des milliards d'hommes demain pourront travailler, bavarder, rire ou s'émouvoir ensemble à des kilomètres de distance grâce aux nouvelles autoroutes de l'information. Si vous voulez savoir comment votre vie de famille, vos loisirs, votre travail vont se transformer en profondeur. Ensuite, j'ai lu un autre livre, c'est « Mon corps est un autre » de Claire Sylvia. Le miracle des greffes, le mystère de la mémoire cellulaire. Alors voilà ce qu'ils disent pour le résumé. Voici une histoire fascinante sur la survie de la mémoire cellulaire, par-delà la mort physique, une vision radicalement nouvelle de l'univers de la physique, de la biologie et de notre existence. Claire Sylvia, jeune femme de 40 ans, est mourante. Ultime tentative pour être sauvée, elle subit une transplantation massive d'organes. Désormais, elle devra vivre, respirer avec le corps et les poumons d'un autre. Bouleversement physique, pas seulement, Claire se découvre une nouvelle vitalité, des comportements inhabituels, des goûts étranges. L'esprit du donneur se serait-il transmis en elle? Ce n'est pas un livre de science-fiction, c'est un livre de témoignage. Hein. Bon, enfin, de témoignage, d'après ce qu'elle dit. Moi, je ne crois pas tellement à ce qu'elle raconte, mais enfin, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je l'ai lu et ça m'a permis de faire mon histoire. Ça m'a aidé pour faire mon histoire. Alors, j'ai lu aussi de nombreux articles dans les journaux tout au long de l'année que vous avez dû vous aussi lire. Par exemple, dans le Progrès de Lyon, téléphone portable, onde dangereuse. Enseignant, chercheur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, laboratoire de biochimie pharmacologie, Roger Santini publie le premier livre grand public alertant sur le danger potentiel des téléphones cellulaires, un constat alarmant. J'ai lu aussi dans Le Monde du samedi 14 novembre 1998, en première page, le minotaure en gestation dans un laboratoire de Massachusetts. Ce sont les Américains qui viennent de révéler avoir brisé un nouveau tabou en fabriquant des cellules et des situs fruits d'une chimère homme-vache. S'inspirant de la technologie du clonage mise en œuvre lors de la création d'Oli, les chercheurs ont expliqué jeudi 12 novembre avoir implanté le noyau d'une cellule humaine adulte dans une ovule de vache préalablement vidée de son noyau et donc de l'essentiel de son matériel génétique. Les cellules indifférenciées embryonnaires offrent l'espoir de fournir une quantité limitée de cellules capables d'être cultivées en laboratoire pour remplacer sous forme de greffe tous les types de tissus humains, a expliqué le docteur James Robby. Une nouvelle étape est franchie dans la maîtrise du vivant. Des chercheurs américains ont réussi à mettre en culture des cellules embryonnaires capables de donner naissance aux différents tissus de l'organisme humain. Les perspectives thérapeutiques et les dilemmes éthiques de cette première sont considérables. Dans Le Monde, du samedi 31 octobre 1998, en première page, révolution chez les neurologues. Les cellules du cerveau se multiplient. Les responsables de nature médecine sont conscients d'avoir lancé un véritable pavé dans la mare aux certitudes neurologiques. Aussi souligne-t-il qu'un tel travail pourrait constituer à l'invention de nouveaux traitements contre certaines affections aujourd'hui incurables. Dans Le Progrès, il y a xénogreffe entre fantasme et réalité. Les greffes homme-animal représentent-elles un enjeu économique que les essais cliniques vont bientôt se multiplier. Dans Libération, du vendredi 6 novembre 1998, des puces dans les fringues. IBM vient de présenter au Japon le premier ordinateur que l'on porterait comme un vêtement. Gros comme un Walkman, l'engin pèse moins de 300 grammes et surtout, il est fourni avec une paire de lunettes spécifiques qui affichent les données devant les yeux de l'utilisateur. Mieux, pire, ce dernier peut contrôler la bête à la voix grâce à un petit micro. Équipé d'un microprocesseur standard, l'ordinateur IBM peut faire tourner tous les logiciels classiques du système d'exploitation, etc., etc., jusqu'au programme de gestion. On peut naviguer sur Internet. Il faudra le brancher sur un téléphone portable. Vous voyez que ce que je disais dans mes émissions, eh bien, hein, dans Libération du 9 décembre 1998, la biotech entre à l'ONU. Ensuite, il y a un autre article aux États-Unis, la manie du fichage génétique. Il y a le fichier national du FBI. Pour les criminels, celui du Pentagone pour les employés et diverses banques de données utilisant l'ADN polémique. Et en France, un fichier ADN serait en service en 1999 pour les infractions sexuelles. La santé en carte. La carte vitale 2, bientôt distribuée en France, pose encore une question. Faut-il mettre toute l'histoire médicale de l'assuré social sur une carte à puce. Dans Le Monde, samedi 5 décembre 1998, le cinéma portable propose l'évasion virtuelle en solitaire. Le Glastron, sorte de paire de lunettes futuriste réalisée par Sony, permet de visualiser l'image délivrée par un lecteur miniaturisé disque vidéo. Dans Paris Match, le Charles de Gaulle. En avant toute. En chantier depuis 11 ans à Brest, le premier porte-avions à propulsion nucléaire se prépare à prendre la mer pour la fête nationale. Sur ce pont, chacune des deux catapultes pourra bientôt faire décoller un avion par minute. En moins d'une demi-heure, les 40 appareils de chasse embarqués seront en vol. La construction du Charles de Gaulle, commencée en 1987, est sur le point de s'achever à l'arsenal de Brest. Le premier bâtiment de surface française à propulsion nucléaire, qui a coûté 19 milliards de francs, prendra bientôt la mer. Propulsé par 83 000 chevaux, le seul porte-avions admis au service actif par la France depuis le Foch en 1963 pourra parcourir 1 000 km par jour. ses missions dissuader, prévenir, protéger et projeter sur toute la mer les mers du monde la puissance militaire française. Ben, vous voyez, moi j'avais mis simplement 500 km et là c'est 1000 km. J'en étais loin. Dans Le Monde, janvier 1999, les soyeux veulent créer un ver à soie produisant du fil d'araignée. Les chercheurs lyonnais tentent d'intégrer dans l'ADN du bombyx le gène codant pour la protéine constitutive du fil d'araignée. Les premières chenilles transgénétiques devraient être obtenues fin janvier. Il paraît que ces fils d'araignée sont très très forts et très très résistants. Dans Libération, mardi 24 novembre 1998, un chirurgien américain a implanté une prothèse visuelle, la puce à l'œil. L'espoir pour les aveugles, grâce à des stimuli électroniques, de voir. Et il a fait un essai sur un aveugle de 71 ans qu'il n'avait jamais vu, et pendant quelques minutes, il a pu voir. Il s'agit d'une prothèse qui capte les images, les convertisse en signaux électroniques et les transmet à une puce électronique implantée dans une cavité de la rétine. Bien, vous voyez, moi, ce que je disais, hein. Alors, toujours dans Libération, toujours le même jour, la génération des cellules peut être pour demain. Ces labos où l'on cultive des organes. Les poissons zèbres dont les nageoires repoussent vont-ils permettre de découvrir les mécanismes génétiques indispensables à la reconstitution humaine? Le mardi 15 septembre 1998, toujours dans Libération, un grand saut de puces. Un cybernéticien anglais vient de réussir la greffe de la machine sur l'homme et ce n'est qu'un début. Une fois au point, sa puce, fichée dans le bras ou fixée dans le bras ou ailleurs, pourrait se substituer à celle des millions de cartes de crédit et de paiement. Avantage, fini les cartes perdues ou volées, à moins de vous découper en morceaux. Sans succès, au demeurant, puisque vous seul saurez où se trouve la puce. Moi, je l'ai implantée dans le bras, mais elle peut être implantée n'importe où. Il a fait des essais avec sa puce, il peut donner des ordres, sa puce qu'il a mis dans le bras, il peut donner des ordres dans sa maison parce que la puce est reliée à un ordinateur, il peut faire ouvrir les portes, il peut, avec cette puce, faire éclairer la lumière, etc., etc. Mais il a pensé, comme moi je l'ai pensé dans mon émission, c'est que cette puce peut servir aussi de carte de crédit et peut, pourquoi pas, de carte d'identité aussi pour plus tard. Une puce implantée dans l'homme, comme je l'ai raconté dans mon histoire. Mais lorsque je l'écrivais, je ne le savais pas encore, puisque j'ai lu l'article bien plus tard. Alors encore, vendredi 22 janvier 1999, science, l'Amérique s'attaque à l'embryon humain. Des fonds publics financeront la recherche sur ces usines à médicaments. On fait le clonage d'un être humain pour lui changer ses organes. Dans Paris Match, si demain le clonage était autorisé. Dans Le Progrès de Lyon, grève de la main, une première mondiale à Lyon. Ça, je crois que je n'ai pas besoin de vous en dire plus parce que vous avez dû tous le lire dans Le Progrès. J'ai lu aussi Le Monde, interactif, les nouvelles technologies. J'ai lu aussi la projection numérique par satellite pourrait révolutionner le cinéma. La diffusion des films par satellite va-t-elle supplanter un jour la pellicule et quelles seront les conséquences pour l'industrie du cinéma? Dans son immense majorité, la profession, du secteur confondu grand ou petit, navigue entre scepticisme et hostilité. J'ai lu aussi dans Télérama Le péril gène. Alors, l'histoire de la génétique commence à Brome, en Moravie, au milieu du siècle dernier, en cultivant des petits pois jaunes et verts dans le jardin de son monastère. Un moine découvre les lois de l'hérédité. Si l'on met un gène de lapin dans un poireau, le poireau se met à fabriquer une protéine de lapin et inversement. Pas de mystère ni de miracle là-dedans, c'est une conséquence normale de l'évolution qui veut que toutes les cellules dérivent les unes des autres.